Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La visite d'Emmanuel Macron en Algérie a consacré la volonté d'aider la jeunesse des deux pays. Des mots du président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher, faisait partie de la délégation qui a accompagné le président français lors de ce déplacement officiel entre jeudi et samedi dernier. Khaled Bencher sera l'un de nos invités. Bagdad sous couvre-feu, décision de l'armée après des manifestations des partisans de Moqtada Sadr suite à l'annonce de son retrait de la vie politique. La capitale libyenne, théâtre de combats entre milices rivales, des affrontements qui ont fait au moins 12 morts et 87 blessés dans la nuit de vendredi à samedi. Le renforcement des relations bilatérales entre la France et Bahreïn au menu d'une rencontre ce lundi entre Emmanuel Macron et le roi du Bahreïn. La rentrée scolaire jeudi prochain en France, la défenseur des droits Claire Hédon appelle l'école à mieux s'adapter aux besoins des élèves en situation de handicap. Une rentrée marquée par la crainte d'un manque d'enseignants. Notre invité sera le secrétaire général de la FSU, Benoît Test. La visite officielle du président français en Algérie s'est achevée samedi par la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat, accords dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du sport. Un accord de coopération a ainsi été signé entre l'Institut Pasteur d'Alger et l'Institut Pasteur de Paris. Le dossier des visas a aussi été longuement évoqué entre le chef de l'État algérien et son homologue français. Emmanuel Macron a évoqué un partenariat nouveau pour la jeunesse et a annoncé l'octroi de 8000 visas supplémentaires pour les étudiants algériens cette année en France. Ils rejoindront un contingent annuel de 30 000 jeunes gens. Parmi les membres de la délégation qui ont accompagné le président français, le président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher, qui a accordé un entretien à Radio Orient. Khaled Bencher.
Cette visite vient dans un contexte de tension réelle qu'il fallait apaiser, notamment entre les deux pays. Leurs relations ont toujours été passionnelles, passionnantes, conflictuelles, complexes, faites à la fois d'admiration réciproque et de tension, de fâcherie, de conflits véritables, de blessures, mais aussi d'une grande espérance pour l'avenir. Le deuxième point, c'était aussi une visite qui a consacré la volonté d'aider la jeunesse des deux pays, la jeunesse notamment algérienne, la jeunesse franco-algérienne et par là même la jeunesse française. Parce que les destins sont communs et le destin est unique, si j'ose dire, de part et d'autre de la Méditerranée et les deux rives se faisant face, doivent coopérer et œuvrer inlassablement pour un bien commun et pour un avenir radieux au-delà des mots pour les deux nations. Et le troisième point est toujours dans une optique de dialogue des cultures, de dialogue des religions. Tout en regrettant l'absence du grand rabbin Haïm Korsia, et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement, j'ai eu des entretiens privilégiés, poussés, cordiaux, fraternels, aussi bien avec l'archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, qui est un ami, Jean-Paul Vesco, et qui est un homme qui incarne les valeurs de l'Évangile, un homme de dialogue, un homme d'une grande ouverture, et aussi mon ami et le recteur de la grande mosquée d'Alger, Cheikh Mamoun Qassimi, qui connaissait bien mon père sur le plan personnel et avec qui nous avons voulu établir des relations d'amitié et de coopération entre son institution et la fondation. Voilà, donc globalement le bilan est positif, porteur d'espérance et de sens, et encore une fois, notamment pour la jeunesse.
Et ce déplacement officiel avait également, vous le soulignez, une vocation cultuelle.
D'un côté, nous avons un État laïque où la séparation est réelle et de fait et de droit entre les considérations culturelles et les considérations politiques. En Algérie, nous n'en sommes pas encore là. Cette dimension-là de dialogue interreligieux pour que la grande famille abrahamique puisse se retrouver aussi bien en France qu'en Algérie. De ce point de vue-là, oui, ce voyage avait cette dimension-là. Je répète toujours que la Fondation n'a pas une vocation à mettre en avant les considérations proprement culturelles, puisque notre institution est laïque, à vocation éducative, culturelle et de médiation sociale et à portée philanthropique aussi. Mais quand il s'agit des hommes et des femmes de bonne volonté de se retrouver, de parler, de dialoguer dans un esprit de fraternité et de coopération mutuellement avantageuse, la Fondation est toujours présente.
Cet apaisement voulu sur les questions mémorielles, vous qui étiez sur place, qui faisiez partie de cette délégation, l'avez-vous ressenti ?
Assurément oui. Tous nos interlocuteurs, qu'ils soient français, algériens, franco-algériens, à commencer par ceux qui ont les dossiers en main, les historiens, avaient cette volonté résolue, j'ai dit tout à l'heure, d'aplanir les difficultés, de travailler. Les archives sont ouvertes, c'est un engagement du président de la République française, de 1830 à 1962, et du côté algérien, il y a cette volonté de travailler sur ces archives et de passer en revue tout ce qui a pu blesser, faire mal, assombrir sur le siècle et 32 ans de colonisation, dont je répète que le système colonial est foncièrement raciste et qui n'a pas honoré les idéaux du siècle des Lumières, de l'humanisme et des idéaux même de la Révolution française. Donc regarder ça en face relève d'une grandeur d'une nation, la nation française. Regarder cela en face relève du génie du peuple français. Et donc les retombées premières sont aussi pour la France. Et du côté algérien, on finira par s'apaiser et voir que les blessures du passé sont reconnues et prises en charge dans leur, j'allais dire, thérapie pour sortir définitivement de ce trauma qui ne cesse d'être transmis de génération en génération.
La présence du président de la Fondation de l'Islam de France, vous-même, au sein de cette délégation, comment l'avez-vous interprété ?
Une reconnaissance du travail accompli, et c'est ce qui a été dit, et c'est sous cet angle-là que cette présence se justifiait. J'en sais gré au président de la République de le reconnaître.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher. L'armée irakienne a décrété un couvre-feu à Bagdad, une décision alors que des milliers de partisans de Moqtada Sadr manifestaient leur mécontentement dans et à l'extérieur de la zone verte dans la capitale irakienne. Des manifestations après que Moqtada Sadr a annoncé son retrait de la vie politique. Le gouvernement koweïtien a convoqué des élections législatives le 29 septembre prochain. Le décret a été publié au journal officiel deux mois après la dissolution du Parlement dans ce pays plongé dans une crise politique. La capitale libyenne, théâtre de combats entre milices rivales, des affrontements qui ont fait au moins 12 morts et 87 blessés dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le gouvernement basé à Tripoli a imputé la responsabilité des combats au camp du gouvernement rival, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar. L'ambassade américaine à Tripoli s'est dite très préoccupée, tandis que la mission de l'ONU en Libye a appelé à un arrêt immédiat des hostilités. Le Pakistan en proie à des inondations meurtrières, des inondations qui ont fait au moins 1061 morts. Elles ont emporté pilloté de nombreuses maisons et détruit de nombreuses terres agricoles. Ces intempéries sont comparables à celles de 2010. Cette année-là, 2000 personnes avaient été tuées et près d'un cinquième du pays submergé par les pluies de mousson. Le renforcement des relations bilatérales entre la France et Bahreïn était au menu d'une rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le roi du Bahreïn. Le président français et Ahmad bin Issa al-Khalifa ont abordé également l'invasion russe de l'Ukraine. Les deux dirigeants ont aussi évoqué les crises alimentaires et énergétiques aggravées par l'agression russe. La défenseure des droits Claire Hédon demande à l'école de mieux s'adapter aux enfants en situation de handicap. Dans un rapport publié ce lundi, Claire Hédon appelle notamment à une meilleure formation des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des enseignants. La défenseure des droits dénonce une gestion des ressources humaines au détriment des besoins des enfants. La rentrée scolaire qui aura lieu jeudi prochain en France, une rentrée marquée par la crainte d'un manque d'enseignants, le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste.
On est inquiet à l'approche de cette rentrée parce que on est dans une situation extrêmement difficile pour l'éducation. Il y a des milliers de postes qui n'ont pas été pourvus dans les concours de recrutement. Ça renvoie à une crise très large de la profession enseignante, hein, avec beaucoup d'indicateurs qui nous font voir que les enseignants sont dans une forme de mal-être, en tout cas de perte de sens de leur métier, de sentiment de manque de reconnaissance, hein, lié aussi à des salaires qui ont stagné, même s'il y a eu une petite revalorisation, hein, qui n'est pas négligeable, mais les 3,5% sur le point d'indice qui ont été consentis ne vont pas compenser l'inflation. Donc il y a beaucoup de sujets en fait à cette rentrée, les salaires, les réformes qui se mettent en place, un sentiment de dépossession des métiers. Et face à ça, Pape Ndiaye dit les choses assez honnêtement, donc ça pourrait effectivement nous rassurer dans le sens où ça n'est plus le déni de Jean-Michel Blanquer qui disait tout va bien, les syndicats ne sont que des ventilateurs à angoisse. On n'est plus là-dedans, Pape Ndiaye reconnaît hein, qu'on va manquer d'enseignants, qu'on va vivre une rentrée un peu compliquée, mais le fait est que on n'a pas véritablement de pistes et de solutions pour revaloriser le métier enseignant, pour améliorer les choses. Et c'est ça qui rend les choses assez inquiétantes. Hein.
Un enseignant devant chaque classe, comme le souhaite l'exécutif, est-ce que le recrutement des contractuels peut permettre de réaliser cet objectif?
Le problème, c'est que un adulte devant chaque classe, c'est pas un enseignant devant chaque classe. On peut avoir des situations où il y a une solution de fortune, une solution rapidement bricolée. Mais ça n'est pas comme ça que sur le long terme on pourra gérer les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter par des job dating en 30 minutes des personnels à la place d'enseignants formés qui vont faire un travail véritablement approfondi avec les enfants. Et les contractuels qui ont été recrutés, je pense qu'ils vont faire, je le souhaite, et puis je pense que sincèrement ils vont faire du mieux qu'ils pourront. Et beaucoup d'ailleurs feront très bien les choses, hein. C'est même pas la question de dire que la qualité sera pas au rendez-vous, mais c'est pas comme ça que en masse et massivement on arrive à avoir un système éducatif de qualité. Et donc à force d'avoir des solutions de fortune, à force de gratter les fonds de tiroir en essayant d'aller récupérer des gens qui n'ont pas été admis au concours mais qui quand même pourrait faire quelques heures devant les élèves, etc., etc. On précarise le métier, on précarise les gens, on les met parfois eux-mêmes en situation difficile, hein, ces contractuels, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, mais sans la formation, sans avoir eu d'entrée dans le métier, sans même avoir de tuteur souvent, ils sont un peu démunis, et je pense qu'on met aussi les gens un peu en difficulté, parce qu'enseignant, c'est pas simple, voilà, on est balancé devant une classe, c'est quand même pas complètement facile, et donc, non, c'est pas une solution de long terme.
Ces gens recrutés hors concours, quelles sont leurs formations?
C'est très variable, en fait, hein, très souvent, ce sont des candidats qui passent les concours ou vont passer les concours et qui donc, soit n'ont pas eu le concours, soit n'ont pas eu l'oral et qui du coup ont quand même suivi des formations de préparation au concours qui font qu'ils sont entre guillemets dans le bain. Il y en a d'autres qui sont pas forcément, qui étaient pas forcément dans les études pour devenir enseignant, qui peuvent être dans d'autres cursus et qui vont à un moment parce qu'il y a une opportunité vont se destiner au métier de l'enseignement. encore une fois, c'est pas forcément des mauvais profils entre guillemets, c'est même souvent des gens qui sont extrêmement volontaires et qui parfois vont pouvoir très bien faire. Hein. Il s'agit surtout pas de dire qu'ils seront pas capables de faire, mais souvent ce sont des profils qui ont peu de formation vraiment à l'enseignement en classe. Ils ont parfois des connaissances disciplinaires, mais pas de formation à l'enseignement. Et surtout, l'institution se refuse à leur donner cette formation parce que, à la limite, recruter dans l'urgence des gens comme ça, parce qu'on peut pas faire autrement, bon, dans une certaine urgence, ça s'entend. Mais si à minima on prévoyait que, ils aient une journée de cours en moins par rapport aux autres enseignants, et qu'au moins sur ce temps-là, on leur assure une formation, un peu dans l'urgence, mais en même temps qu'ils enseignent, ça, ce serait au moins une petite chose intéressante. Et là, même ça, ils ont très très peu de choses. Hein. Ils ont quelques jours avant la rentrée, là, ils ont 2, 3, 4 jours parfois, mais ça aussi, c'est très variable d'une académie à l'autre. Certains n'ont même rien, c'est-à-dire pas de jours de formation prévus, balancés dans des classes comme ça, avec simplement la promesse que l'inspecteur les suivra, mais sans forcément d'effectivité de ce suivi, et donc sans savoir véritablement ce qu'on attend d'eux, c'est extrêmement compliqué quand même pour eux.
Quel regard portez-vous à la FSU sur l'évolution de l'inclusion à l'école, après notamment ce cri d'alarme de l'UNAPI, l'une des principales associations du secteur du handicap, qui indique que 18% des enfants ou adolescents en situation de handicap n'ont aucune heure de scolarisation par semaine?
C'est une situation dramatique qui, très franchement, est indigne. On s'est donné l'objectif depuis maintenant 20 ans de l'inclusion, qui est un bel objectif, qui est un objectif, et en plus je dis bel objectif, mais je ne devrais même pas dire ça, qui est un objectif tout à fait normal. C'est la situation d'avant qui n'allait pas. C'est-à-dire, effectivement, on doit permettre, là où c'est possible, au maximum, à tous les enfants d'être dans la même école. Mais on s'est donné cet objectif sans se donner les moyens. Et du coup, alors on a beaucoup amélioré des choses quand même. Hein. Il y a eu la création du métier d'AESH, etc. Mais du coup, les inégalités entre enfants handicapés sont d'autant plus inacceptables. C'est-à-dire que comme maintenant l'objectif affiché, c'est de dire c'est l'inclusion. Ceux qui ne sont pas intégrés dans le dispositif, faute de moyens, faute de personnel qui pourrait les suivre, c'est encore plus inacceptable et c'est ressenti comme encore plus injuste. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne la mesure de ce phénomène qui est ressenti comme une exclusion très forte. Et donc, on arrive à avoir des AESH, à avoir des moyens pour effectivement scolariser l'ensemble des enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap et quelle que soit leur forme de scolarisation.
Le secrétaire général de la FSU, Benoît Test, fin de cette édition. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Diana Badiop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe au maire des Mureaux. Émission rediffusée ce mardi matin à 7h, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.